8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Entre les filles et les maths, c'est quoi le problème? En France, une fille de 17 ans sur deux n'étudie plus les maths contre seulement un garçon sur quatre. D'où viennent ces clichés comme quoi les hommes auraient la bosse des maths et pas nous? Quelle est la responsabilité des familles et des profs dans l'orientation genrée des élèves? Résultat, selon l'UNESCO, seulement un tiers des scientifiques dans le monde sont des femmes. Alors comment changer la donne pour faire émerger une nouvelle génération de matheuses? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Ramla Abdelatif.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne à l'Université de Paris Picardie-Jules Verne à Amiens dans le nord de la France, dans l'unité mixte de recherche CNRS. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais il y aurait seulement 22% de femmes enseignantes chercheuses dans les maths.
Oui,
comme
pas,
vous.
Plus. Pas plus. Clairement pas plus. Hein.
Bon, on est loin de la parité, on va en reparler. Bonjour Claudine Schmuck.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Global Contact, un cabinet d'études et de conseils spécialisés dans l'innovation et la mixité. Et vous venez de publier votre étude Gender Scan. Vous nous donnerez les résultats. Et notamment, on parlera de la place des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mm-hmm. Et là encore, il y a du travail, hein, me semble-t-il.
Pas mal, oui. Pas mal.
Exception peut-être culturelle française au niveau européen.
Non, pas du tout. Non. Hélas, c'est un fait qui concerne énormément de pays dans le monde. Beaucoup de pays développés, qu'ils soient développés ou non, d'ailleurs.
Voilà, constat.
C'est, hélas, c'est ce que vous disiez avec l'UNESCO, hein, que 30% de femmes dans les filières de l'aide scientifique et technique.
On est également en ligne avec Clémence Perronnet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'agence Phare et rattachée au centre Max Weber. Vous êtes aussi co-autrice du livre « Matheuses, les filles, avenir des mathématiques » avec un point d'interrogation quand même. C'est chez CNRS Éditions. Avec vous, on verra, et avec vous toutes, comment il faut aussi changer la façon d'enseigner et de sacraliser aussi les maths. Et puis dans une dizaine de minutes, on écoutera le témoignage de Jeanne-Catherine Njila. Elle est professeure de chimie en Afrique du Sud. Elle dirige une fondation pour encourager les filles à poursuivre des carrières scientifiques, notamment au Kenya. C'est un portrait signé Amélie Beaucourt. Et puis on attend bien sûr vos témoignages à vous au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi?
Je suis Abel, professeur de mathématiques au collège. En tant qu'enseignant, nous rencontrons des problèmes liés à la confiance en soi-même. Donc les filles pensent que les mathématiques sont difficiles et que c'est réservé aux garçons. La plupart des filles qui essayent sont parfois découragées par la cellule familiale qui pense que faire les mathématiques vont conduire à des études beaucoup trop longues pour une femme. Et la deuxième chose, c'est la démotivation personnelle. Dans les initiatives que nous prenons dans notre association, on constate que déjà à l'entrée en sixième, beaucoup de filles s'intéressent à des compétitions liées aux mathématiques. Mais plus on avance vers les classes supérieures, l'effectif des filles diminue. Je vous remercie.
Mais surtout, merci à vous, Abel Delomé, pour votre message. Et ça plante le décor, hein, le manque de confiance en soi, l'influence familiale. Ramla Abdelatif, forcément, j'imagine que ça vous cause en tant que mathématicienne.
Un peu, effectivement. Il y a deux choses qui me marquent dans ce premier témoignage, dans cette première question. La première, c'est d'avoir ce discours que les maths sont difficiles et réservées aux garçons. Comme si les choses difficiles étaient nécessairement réservées aux garçons.
Ça, la fameuse bosse des maths aussi, dont on parle.
Oui,
vieux cliché.
Et oui, vieux cliché. Et bon, Clémence Perronnet, dans son livre qui a le même titre, La bosse des maths n'existe pas, a quand même assez brillamment expliqué en quoi c'était majoritairement des idées reçues. Et aussi, le second point là, qui me paraît intéressant, c'est voilà, les études trop longues pour des filles. Effectivement, on a toujours l'impression que les études de mathématiques, c'est nécessairement des études longues, difficiles, on ne connaît pas trop les débouchés. Et je pense que ça, c'est un vrai obstacle. C'est-à-dire que ce n'est pas des études plus longues que dans d'autres domaines. Si vous faites des études littéraires, vous avez aussi des cursus longs. Donc, ce n'est pas plus long ou moins long. Mais c'est beaucoup plus méconnu. Et donc, partant de là, on a voilà, ce cliché que les études de mathématiques sont des choses voilà, pour une toute petite élite, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a des parcours extrêmement variés.
Clémence Perronnet, vous les balayez, vous, hein, dans vos ouvrages, tous ces clichés, il y en a beaucoup. Hein.
Oui, et c'est extrêmement important, surtout, de revenir sur celui de la confiance en soi, ou plutôt du manque de confiance en soi des filles. Parce que ça, c'est vraiment une explication qui revient tout le temps. Et ces derniers jours, on en a eu beaucoup. Comment on explique l'absence des filles en mathématiques? Bah, elles manquent de confiance en leurs capacités. Et ça, c'est vraiment important de dire que ce qu'on sait, grâce à la sociologie de l'éducation et grâce aux sciences de l'éducation, c'est que c'est une erreur. Considérer que le manque de confiance en soi, c'est ça qui explique l'absence des filles en maths, en fait, ça revient vraiment à confondre des causes et des effets. En fait, ce n'est pas parce que les filles manquent de confiance en elles-mêmes qu'elles ne sont pas en mathématiques. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui leur a fait perdre la croyance, la représentation de leur capacité, de leur possibilité de faire des mathématiques.
Alors, qu'est-ce qui leur a fait perdre? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question, alors?
Eh bien, là, il y a quand même plein de réponses qu'on peut avancer, et finalement, elles ne sont pas prioritairement du côté de la famille. C'est aussi, on surestime aussi le poids des parents, et comme s'il y avait aussi des méchants parents qui interdisaient à leurs filles de faire des mathématiques. Finalement, la première cause de la perte de confiance en elles-mêmes des jeunes filles, c'est vraiment l'éducation sexiste et l'environnement sexiste dans lequel elles sont baignées en permanence. Donc, ce n'est pas uniquement la famille, c'est aussi l'école et c'est aussi les camarades de classe. Et ce qu'on constate, et notamment dans l'étude et l'enquête que j'ai menée là auprès des lycéennes de 16 ans, c'est qu'elles ont toutes reçu et reçoivent très fréquemment des petits commentaires qui dénigrent leur intelligence ou l'intelligence des femmes en général, et qui vont leur dire qu'elles sont pas faites pour les mathématiques, ou qu'elles devraient se faire plus discrètes en cours de maths, ou que si elles ont une bonne note, c'est peut-être parce qu'elles ont fait du charme au prof, etc. Et en fait, c'est plein d'interactions qui leur donnent de très bonnes raisons de ne pas y croire. Ouais. Donc c'est plutôt renverser l'explication et montrer ces violences-là et leurs effets.
Claudine Schmuck, l'influence de la famille, des amis, des petits copains de classe, l'autocensure...
Je rejoins totalement Mathilde dans ses observations et ses commentaires, parce qu'effectivement, le point clé, ce sont les prescripteurs, donc à la fois les parents et les enseignants. Et on conduit une étude que vous mentionniez, on a quantifié ça de façon assez précise au des étudiantes et étudiants en école d'ingénieur pour voir quelles étaient les influences des uns et des autres. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 40% des jeunes femmes qui sont en école d'ingénieur ont été découragées d'abord par les enseignants, ensuite par les parents. D'accord ? Donc on quantifie ça. Donc 40% des jeunes femmes qui sont aujourd'hui en école d'ingénieur. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire quand on parle à l'ensemble de la population française.
Mais découragée, ça veut dire que
ça veut dire qu'on leur dit c'est pas pour toi. Ça a évolué entre 2021 et 2023. C'est-à-dire qu'on voit au départ les commentaires étaient 100% sexistes. C'est-à-dire c'est pas t'es une femme, tu réussiras jamais. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu plus subtil. On a une forme de sexisme dissimulé où on leur dit à la place, ce sera un milieu hostile. Tu n'arriveras pas à t'y épanouir. Mais le pourcentage au total est le même, c'est-à-dire que les arguments invoqués en fonction du genre, donc je suis une femme, c'est soit tu ne réussiras pas parce que le milieu est hostile, soit tu es une femme, donc tu ne réussiras pas. Mmh. Et c'est ça qu'effectivement, ce sur quoi il faut agir. Après, je pense que je suis complètement d'accord sur l'importance significative des prescripteurs, comme on vient de l'évoquer, mais il ne faut pas non plus négliger le poids des stéréotypes et des préjugés colportés et renforcés en ce moment par les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont une influence dévastatrice. Mmh. Ça renforce les comportements stéréotypés chez les jeunes. D'ailleurs, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le fait que TikTok renforçait des images très stéréotypées des filles. Il les cantonne à des rôles, des jeux de rôle, et c'est extrêmement préoccupant.
Pour revenir quand même sur l'influence des profs, Ramla Abdelatif, vous qui êtes mathématicienne, j'ai cru voir quelque part que vous, votre ancienne prof, quand vous étiez élève de maths, pareil, vous a dit c'est pas fait pour toi.
Mais oui, ma prof de seconde, effectivement.
Ah ben.
Et pour des raisons qui, avec le recul, me paraissent complètement idiotes.
Mais c'est si quoi Pourquoi elle vous a dit ça
On était dans une activité de géométrie et j'ai toujours tendance, même actuellement, à appuyer très très fort sur mon crayon, donc à très mal gommer. Et elle a vu ça. Elle a dit non, mais toi, tu ne seras jamais mathématicienne.
Merci madame, vous l'êtes en fait. Il y a aussi une double discrimination envers les filles des milieux populaires, envers les filles d'origine racisée. On sait quand même que les maths, ça incarne aussi l'élitisme, la matière élite élitiste, mais l'élitisme social aussi, Clémence Perronnet.
C'est exactement ça, en fait. La discrimination et l'exclusion, elle n'est pas seulement contre les femmes, elle est aussi contre les autres groupes sociaux, que sont les classes populaires et puis que sont les personnes non blanches. En fait, le mécanisme, c'est exactement le même, que ce soit pour les femmes, pour les personnes issues des classes populaires ou pour les personnes non blanches. À chaque fois, ce sont des représentations sociales qui vont nier leur capacité à réfléchir, à être des personnes profondément intelligentes. Et donc, les maths, c'est vraiment la discipline qui est la moins diversifiée parce que c'est la discipline qui symboliquement représente le mieux et le plus ce qu'on considère comme, en fait, le maximum de l'intelligence et des capacités cognitives dans les sciences.
Le fameux génie. Le fameux génie.
Exactement, ouais. C'est ça, c'est le génie. Et donc, effectivement, il y a cette triple discrimination sexiste, élitiste et raciste. Et ça se voit, et je trouve que ce que disait le témoignage de Rama était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir en classe ou pendant les études des comportements des filles, des garçons, des jeunes, de différentes classes sociales, des différentes couleurs de peau, et ces comportements, ils vont être interprétés différemment selon ces représentations de ce que sont censés savoir faire ou ne pas savoir faire les unes et les autres. Et donc, c'est là qu'on va avoir tout ce qu'on sait aussi en sciences de l'éducation, c'est-à-dire, par exemple, des différences à résultats égaux, à comportements égaux, de commentaires, d'appréciations, que ce soit des enseignants et des enseignantes ou des parents. C'est-à-dire que, on va avoir un enfant en réussite ou qui fait quelque chose de bien, et à certains, on va dire, dis donc, vraiment, c'est extraordinaire ce que tu fais, on voit que tu es un futur chercheur ou un futur mathématicien, et on va dire à une autre, bon, écoute, là, ce coup-ci, ça a marché, mais on voit que tu as fait beaucoup d'efforts et ça a dû prendre beaucoup de temps.
Ouais.
Et donc, tout ça, ça fait que l'intelligence n'est pas accordée de la même façon selon le profil des jeunes.
C'est ça. Claudine Schmick, je vous voyais.
Alors, en fait, oui, pour renforcer ce que vient de dire Mathilde, en fait, il y a un test qui a été fait par le CNRS auprès de petits enfants, mais aussi auprès d'étudiants. Donc, à toutes les classes d'âge, ça se vérifie, ce qui est quand même assez inquiétant parce que je vais vous raconter en quoi ça consiste. Donc, on fait faire des exercices de logique. En fait, c'est de la des mathématiques, c'est une branche des mathématiques. Sauf que l'exercice, il fait intervenir des dessins, etc. Bon. Donc, quand on le présente comme un exercice de dessin créatif, etc., les filles, systématiquement, ont d'aussi bons résultats que les garçons, si ce n'est meilleur. Exactement le même exercice, mais présenté cette fois-ci comme un exercice de mathématiques.
Rhétorique.
Bon, si on veut, les résultats des filles seront systématiquement inférieurs. C'est la démonstration par A plus B, si je puis me permettre, puisqu'on est en train de parler de mathématiques.
1 plus 1 égale 3.
du poids des stéréotypes. Donc le manque de confiance en soi induit des résultats. Et je rebondis aussi sur autre chose qui a été dit, qui me semble extrêmement important. Il faut cesser de dire que les filles s'auto-censurent. Il faut cesser de dire que les filles manquent de confiance en soi. Il faut commencer à dire, mais qu'est-ce que dirait quelqu'un qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quand on a cessé de vous répéter « tu n'es pas bonne, c'est pas pour toi, t'as pas de niveau », etc. Faut pas rêver. Enfin, y a quand même tout un changement de mentalité qui est à impulser. Il faut surtout, à mon avis, arrêter de dire que les filles s'autocensurent. Non, on les censure. Et elles ne font que répéter ce qu'elles entendent.
Je sens que la mathématicienne a l'air totalement d'accord. D'ailleurs, vous êtes la première à dire, il faut aussi enseigner les maths comme une langue concrète, ludique, pas sèche, avec des jeux, avec de la créativité.
Oui, c'est un moyen de communication aussi, comme les autres. Il n'y a pas de... Mais on ne le considère pas comme ça, justement, pour les raisons qu'on a évoquées. La voie royale, l'élitisme, c'est un pouvoir qu'on garde. Mais je voudrais rebondir sur l'étude qui a été mentionnée par Claudine
juste
avant.
Vous la connaissez, cette étude-là ?
Je la connais. Et moi, ce qui m'a aussi marqué, pas tant sur les résultats, mais aussi sur le fait de faire ou non l'exercice. C'est-à-dire que quand il est présenté comme un exercice de dessin, il y a beaucoup plus de jeunes filles qui s'investissent et qui essayent de le faire que quand c'est présenté comme un exercice de maths, parce qu'on a cette peur de l'échec. Et en fait, là, il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire que l'échec... En recherche, on se trompe tout le temps. Je veux dire, c'est quand on se trompe pas, on est super content parce que ça veut dire qu'on a un résultat. Mais on se trompe tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est l'essence même. Mais quand vous apprenez à marcher, vous vous trompez tout le temps.
Et
puis vous essayez, vous vous relevez. Et pourquoi est-ce que dans l'enseignement et en particulier dans celui des maths, l'erreur ne serait pas pareillement un moteur ? Sauf qu'à l'heure actuelle, vu la manière dont on enseigne les mathématiques, le plus souvent, l'erreur est vue comme une sanction. Donc forcément, on a peur de se tromper. Et quand vous êtes dans une position où on vous apprend que tout doit être bien propre, bien net, ou quand vous êtes dans une position où vous dites « mais c'est pas grave, réessaye », l'impact est là. C'est-à-dire que si vous êtes dans le premier cas, vous allez avoir peur de l'erreur, donc vous allez préférer ne pas faire plutôt que de faire et de risquer de vous tromper. Dans le second cas, vous allez faire. Bon, bah, vous comprenez bien que là, ce que je décris, c'est juste les stéréotypes de genre qui sont naturellement accolés aux filles et aux garçons dans notre société. Et je voudrais juste revenir sur un petit point qui est cette image du génie. Il y a quelque chose qu'il faut casser sur les mathématiques. Il faut arrêter avec cette chose du génie solitaire, arrêter de glorifier ce genre de figure. Les mathématiques, à l'heure actuelle notamment, c'est un travail collaboratif, c'est un travail en équipe. On travaille très peu tout seul. On travaille avec les autres. Et c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est ça qui est chouette, si vous voulez.
Moi, j'aurais bien aimé avoir une prof de maths comme vous. Allez, on continue à en parler dans quelques instants après. Bien, c'est son nom, Ma Chérie, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Chérie sur RFI, dans Lumière de voisins et de voisines, on parle des inégalités de genre dans les filières mathématiques et scientifiques. Comment changer la donne? On en cause avec nos invités, Ramla Abdelatif, mathématicienne, Claudine Schmuck, directrice générale de Globe Contact, et Clémence Perronnet, sociologue et co-autrice du livre Matheuse, les filles, avenir des mathématiques chez CNRS Addition. Ah bah oui, parce que comme on parle mal. Et on attend bien sûr vos témoignages à vous au 33 7 64 45 51 41. On a un appel d'Eva qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Eva.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes coach.
Bonjour à tous les auditeurs du monde.
Voilà. Vous êtes coach de football, Eva. Mais je crois savoir que quand vous étiez au lycée, vous aimiez plutôt bien les maths. Hein.
Je vous entends mal.
Vous ne m'entendez pas très bien?
Oui, allô?
Oui, nous, on vous entend en tout cas. Hein.
D'accord, c'est bon. Oui.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Alors, les maths, oui. Les maths, quand vous étiez au lycée, comment ça se passait?
Oui, en fait, les maths, lorsque je faisais la classe de 6e à collège, je détestais les maths. Mais après, j'ai été soutenue par mon grand frère qui m'a montré un peu les équations. Ça a commencé par les équations, comment le résoudre. Mm-hmm. Et après, allô?
Oui, oui, je vous entends. Allez-y, continuez.
D'accord, voilà. Voilà. Au début, j'ai dit que lorsque je faisais la 6e, je détestais les maths. Mais après, j'ai été aidée par mon grand frère qui a vu que bon, je ne voulais pas les maths. Il m'a montré comment résoudre les équations. Et depuis, après, j'ai commencé à aimer les maths parce qu'il m'a montré la procédure. Et jusqu'en classe de terminale, je n'ai jamais eu une moyenne au-dessous de 10. Et là, vraiment, sur coach football, j'aide des enfants à aimer le maths, notamment les filles. Parce que je vois que les filles, elles sont tellement intelligentes. Et si on les aide, surtout, il y a des gens, ils n'ont pas, il y a des filles, ils n'ont pas les moyens pour percer dans le domaine des maths. Donc, on doit les aider pour qu'on puisse avoir des scientifiques.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes à la fois coach de foot et coach de maths, alors. Hein, c'est ça?
Pas coach exactement de maths, mais c'est de la classe de 6e jusqu'à la terminale. Ouais. Même moi, lorsque je faisais la terminale à Yalo-Sorène, c'est moi qui aidais tout, mais c'est moi qui aidais les élèves,
ouais.
Les deux classes. Parce qu'il y avait deux classes de terminale là-bas et tout ça. Là, je les aidais à faire les maths.
Là,
et vraiment, les gens, vraiment, et, tout le monde en parlait, mais voilà. Maths, j'adore.
Ouais.
Mais malheureusement, je n'ai pas continué parce que tu sais, au Sénégal, par exemple, même si tu aimes une matière, des fois, ils ne t'orientent pas vers cette matière.
Eh oui,
mais peut-être j'aurais pu être une scientifique, mais malheureusement pour moi, voilà, dans ce domaine, je n'ai pas percé.
Ouais.
Voilà.
Bon, bah, vous êtes heureuse dans ce que vous faites quand même, malgré tout.
Voilà.
Hein, bah en tout cas, merci pour votre témoignage, Eva, hein, du côté de Dakar. On voit la problématique, elle est finalement toujours la même. Claudine Schmuck, je crois savoir que c'est différent dans les pays du Maghreb ou pas ?
Absolument. Donc, quand on regarde les résultats à l'enquête PISA, vous savez, c'est l'enquête, la fameuse enquête de l'OCDE qui compare le niveau des filles et des garçons de 15-16 ans dans le monde entier, à la fois sur les mathématiques et les sciences. Ce qu'on voit, c'est que de façon assez contre-intuitive, au départ, quand on a décortiqué les résultats, on était assez étonnés. On voit que les filles ont des niveaux égaux ou même supérieurs à ceux des garçons au Maroc, Tunisie, Algérie, enfin les pays qui participent à l'enquête PISA. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi on avait ces résultats qui étaient assez contre-intuitifs. Et en vrai, on retombe sur un des éléments qui a été évoqué par l'auditrice juste à l'instant, donc support familial très fort,
ouais.
Parce que les proches et les parents souhaitent que leurs filles fassent de bonnes études. Et puis, d'autre part, il y a peut-être un autre facteur qui joue, c'est que dans certains de ces pays, il y a une plus forte proportion d'enseignantes de maths.
Alors ça, c'est une vraie question parce que, par exemple, on a le message d'Éric qui nous écrit du Togo. Il nous écrit « Dans toute ma scolarité, je n'ai jamais connu une prof de maths. Les filles ne peuvent pas se projeter dans ce métier. » C'est une vraie question. Là. J'en parle à Ramla Abdelatif, la mathématicienne.
Bah, effectivement, enfin, si on n'a jamais vu quelque chose, on ne peut pas se dire que ça peut exister et on ne voit pas pourquoi ce serait nous. Et la question donc, qu'on appelle parfois des rôles modèles, effectivement, ici, c'est une question qui est très controversée parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme rôle modèle. Mais ce qui me paraît important, effectivement, c'est de donner de la visibilité aux mathématiciennes qui existent déjà et de, entre autres, réussir à montrer aux jeunes filles actuelles et aux jeunes filles à venir que c'était des jeunes filles comme elles, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, là, je peux parler d'une initiative qu'on a mise en place là, depuis 2 ans maintenant avec Fabien Durand, Guillemette Chapuisa, Élise Jeanvresse, qui s'appelle « Maths, c'est pour elles », où, en fait, le dispositif... Pardon.
Maths, c'est pour elle.
Maths, c'est pour elle. Mm-hmm. Voilà. Mais le L, en fait, fait référence au L de licence.
Donc,
ça, le public visé, c'est les étudiantes de L1, L2, L3, qui viennent de milieux, a priori, qui ne sont pas directement liés aux mathématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les professions des parents, on va regarder est-ce qu'elles sont boursières ou pas, dans quels établissements elles ont fait leurs études, pour aller chercher justement les jeunes filles qui sont privées, comme le disait Eva, qui n'ont pas, a priori, ce soutien de l'entourage, ce soutien des enseignants, donc qui, a priori, sont complètement déconnectés de ce milieu. Et pendant une semaine, elles sont en immersion. Elles rencontrent des chercheuses et des chercheurs, mais surtout des chercheuses. Elles travaillent comme des chercheuses. Elles découvrent la vie de chercheur, en fait, pendant une semaine. Et donc là, c'est la deuxième année qu'on fait ça et c'est la troisième édition qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et enfin, les résultats sont quand même déjà assez probants. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place une vraie étude sociologique, voir à terme quel est l'impact. Mais les retours qu'on a déjà des participantes sont quand même assez forts. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui arrivent par exemple, celles qui sont en L1, L2, L3, vous allez me dire, elles ont déjà choisi de faire des études de maths.
Oui.
Oui, mais pour la plupart, c'est un peu par défaut, et ou alors pour faire enseignante en collège, parce qu'elles ont eu des enseignantes en collège.
Mm-hmm.
Et sinon, il y en a plusieurs qui disent, oui, peut-être je vais aller faire autre chose.
Oui, ça reste abstrait, quoi, alors que de rencontrer pour de vrai des chercheuses.
Et là, elles se disent, ah, mais ça existe.
Ouais.
Et puis après, elles parlent avec ces chercheuses, et elles se rendent compte qu'en fait, ben, pourquoi pas elles ? Et on en a qui, du coup, maintenant se projettent sur des masters recherche, voire sur des thèses, voire sur des métiers de chercheuse. Alors certaines vont se projeter sur autre chose que des maths, mais des sciences.
Mmh.
Donc au moins, il y a un impact. Et je pense que les activités de mentorat, de manière générale,
bien
qu'elles sont extrêmement importantes, mais elles nécessitent du temps et des moyens.
Ouais.
Ce qui nous manque actuellement.
Ah bah oui, puis c'est pas que vous. Hein.
Ouais.
Le mentorat, Clémence Perronnet, c'est une des clés ou pas pour avoir plus de filles matheuses, comme vous dites, à l'avenir.
Alors, pour le mentorat, pour le moment, on n'a pas un regard de la recherche qui soit suffisant pour trancher. Par contre, on commence à avoir un faisceau de preuves assez convaincant pour les actions en non-mixité. Et c'est le cas du stage Maths et pour elle dont parlait un instant.
Oui, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon.
Non, non, c'est des étudiants.
Voilà. Ça, on sait que ça marche. Bon, alors, on sait que ça marche jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, on sait que le fait d'avoir des temps ponctuels en non-mixité pour pratiquer les mathématiques ou les sciences, bah, c'est vraiment quelque chose qui favorise le calme, la sérénité et le bien-être des filles face aux mathématiques et aux sciences. Donc ça marche. Moi je l'ai vu, c'était pour le coup, j'ai fait l'évaluation, l'enquête sociologique autour du stage des Cigales, qui ressemble beaucoup au stage Maths et pour elle, mais pour des filles plus jeunes, de 16 ans. Et effectivement, et donc pour cela j'avais aussi regardé ce que disait la littérature internationale sur le sujet. Donc on sait que la non-mixité ça fonctionne, et c'est important de la défendre. Parce que dès qu'il y a organisation d'action en non-mixité en faveur des filles en mathématiques, il y a très souvent des réactions négatives. Pourquoi est-ce que vous me proposez cela, Kofi ?
Oui,
c'est pas
sûr.
Juste d'essayer de le faire. Donc la bonne réponse là, c'est oui, mais on sait que ça marche, au moins pour leur donner un cadre où elles vont être en fait pour un temps libérées des oppressions sexistes qu'elles rencontrent en milieu mixte. On sait que ça marche pour ça. On ne sait pas, ou pour l'instant, on n'a pas de preuve que ça transforme véritablement les orientations ou les performances. Mais ça permet au moins d'avoir ce temps serein pour pratiquer les mathématiques. Pour le mentorat, c'est un peu les mêmes hypothèses. On sait que ce qui est bon, c'est la création d'une communauté et c'est la création de groupes qui permettent de partager les expériences, parce que ça permet de se rendre compte du fait que le problème n'est pas individuel, il n'est pas uniquement psychologique. C'est pas plein de filles et de femmes déconnectées les unes des autres qui ont des problèmes personnels qui font qu'elles n'ont pas confiance en elles ou qui font qu'elles se sentent pas bien. Et là, avoir des groupes, avoir du mentorat, ça permet de prendre conscience de la dimension sociale et des déterminants sociologiques de la situation, et donc d'avoir ensuite des réponses et des réactions qui soient plus adaptées.
Ah ben justement, on va continuer à parler de mentorat avec vous toutes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jeanne-Catherine Njila. Elle est professeure de chimie en Afrique du Sud. Elle dirige la Fondation africaine pour les femmes et les jeunes dans l'éducation pour encourager justement les filles à poursuivre des carrières scientifiques au Kenya. Elle revient sur son parcours au micro d'Amélie Beaucourt.
I was one of the best students in mathematics in primary school.
J'étais l'une des meilleures élèves de ma classe en mathématiques. C'est grâce à mes professeurs qui, très tôt, m'ont poussée à faire des sciences. Pas seulement parce que j'étais une fille, d'ailleurs. Je crois qu'ils n'avaient pas encore ce réflexe d'encourager les filles en particulier. Ils encourageaient n'importe quel élève qu'ils trouvaient brillant. À l'époque, il fallait devenir docteur ou ingénieur. C'est pour ça que les profs voulaient absolument qu'on réussisse dans ces matières.
Pendant vos études, est-ce que vous avez rencontré des obstacles parce que vous étiez une jeune fille ?
Oui, en fait, ça a commencé quand j'étais petite. J'ai grandi dans un milieu rural où, traditionnellement, on devient berger. Comme il n'y avait pas d'eau potable chez nous, il fallait faire de la route pour aller en chercher. Devinez qui on envoyait à la source ? Qui on envoyait s'occuper des bêtes lorsque les fermiers étaient absents, quitte à manquer l'école ? Nous, les filles ? Pourquoi ? Parce qu'on nous disait « Vous, les filles, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas bonne élève. Vous finirez bien par vous marier et avoir des enfants. Et votre vie se résume à ça. Donc ce n'était pas grave si nous n'avions pas de bonnes notes. » Je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de lire des romans, de lire les journaux ou de travailler suffisamment pour l'école parce que j'avais trop de corvées sur le dos. Et je détestais le fait d'être traitée différemment parce que j'étais une fille. Les garçons garçons, eux, ils étaient libres comme l'air. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais pas moi. J'ai grandi avec cet esprit de révolte. Je voulais montrer à mes parents que les filles sont aussi importantes que les garçons. Ma réussite scolaire en a été la preuve. J'ai été la première d'une famille nombreuse à entrer à l'université.
Est-ce que ces obstacles de genre, vous les ressentez encore aujourd'hui ?
The higher you climb.
En tant que femme, plus vous montez dans la hiérarchie académique, scientifique, dans les instances dirigeantes en général, plus on vous discrimine. Aujourd'hui, lorsque je candidate à des postes plus élevés, comme celui de présidente d'université, je me sens discriminée. C'est comme si on me disait « Pourquoi veux-tu aller plus haut ? Tu as déjà réussi. Tu es professeure titulaire, directrice de l'Académie africaine des sciences. Que veux-tu de plus ? Rentre et repose-toi maintenant. » On considère que tu as déjà été avantagée, qu'on t'a donné ta chance. Quand tu te bats, on te reproche d'être agressive. Et plus on devient agressive à leurs yeux, plus on est mise de côté. Ce qu'on peut faire, c'est se tendre la main entre nous, en permettant à une femme d'atteindre notre niveau, peu importe l'échelon. Cela donne envie aux autres de nous rejoindre. Et plus nous serons nombreuses, plus notre voix sera entendue.
Quelle est la proportion aujourd'hui de jeunes filles qui sont engagées dans des parcours scientifiques par rapport à des jeunes garçons au Kenya ?
Je pense qu'il y a plus de filles que de garçons. En tout cas, c'est au minimum 50-50. Mais il y a des différences en fonction des disciplines. La majorité des filles optent pour la biologie ou la chimie, alors qu'en physique, en maths ou en sciences de l'ingénieur, elles sont moins nombreuses. Le problème, c'est qu'elles sont peu à poursuivre au-delà de la licence, alors même qu'elles ont de meilleurs résultats que les garçons à ce niveau-là. C'est à ce moment-là que les femmes commencent à se marier. Et souvent, juste après, la famille s'agrandit. On commence donc à voir des femmes qui, consciemment, encouragent leurs partenaires à poursuivre leurs études et, en parallèle, qui se mettent elles-mêmes en retrait. Dans les mentalités, encore aujourd'hui, l'homme doit avoir un niveau plus avancé que celui de la femme. Et puis, il y a une autre réalité. Trouver un équilibre entre la vie de famille et le monde académique, c'est un vrai problème. Mais ça commence à changer. Pour beaucoup, le mariage n'est plus la priorité numéro un. Et les jeunes filles donnent plus d'importance à leur carrière. Elles sont davantage libres d'aller étudier où bon leur semble, d'obtenir une bourse de recherche à l'étranger. Sans mari, sans enfant, ce n'est plus un problème.
Qu'est-ce qui peut être fait très concrètement pour encourager les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques ?
La meilleure solution pour moi, c'est le mentorat. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous prend sous son aile. On se sent soutenu et on n'est plus toute seule. Si je vous prends la main, on avancera ensemble. Mais si vous êtes seule, vous penserez que vous ne pourrez pas y arriver et vous baisserez les bras rapidement. C'est pour ça que le mentorat est ma priorité.
On célèbre le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous ? Et si vous aviez un message à adresser à quelqu'un, quel serait ce message ?
C'est une journée très importante où on s'arrête pour réfléchir à tout ce que les femmes ont apporté à notre monde et à ce qu'on doit faire de plus pour les encourager. Les femmes restent encore en retrait. Sans soutien. Moi, j'aimerais que ce soit une journée pour la reconnaissance de toutes ces femmes. Qu'elles soient dirigeantes, scientifiques, qu'elles travaillent dans l'innovation. On a encore tendance à croire qu'il faut laisser les femmes à la maison, au village, qu'elles ne comptent pas. Mais moi, je dis à ces femmes assises au village, vous êtes importantes. Sans vous, il n'y aurait pas d'agriculture pour commencer. Alors, levez-vous et qu'on vous compte.
Levez-vous et qu'on vous compte. Jeanne Catherine Gila au micro d'Amélie Beaucourt. Clémence Perronnet, que vous inspire son parcours hein, de cette femme mentor aussi.
Je trouve que son discours était vraiment exemplaire. On a toute la compréhension de tout ce qui arrive aux jeunes filles et aux femmes ensuite en mathématiques et en sciences dans ce témoignage-là, à la fois des conditions matérielles d'existence qui au début rendent impossible en fait aux filles pour les filles de travailler autant que les garçons et d'avoir autant de temps pour travailler, à ce qu'elle disait ensuite sur le fait que même quand on parvient à quelque chose, même quand on y arrive, il y a toujours des résistances et que plus on avance, plus c'est difficile et plus on rencontre de résistances. Voilà, je trouve que ça, c'est extrêmement important de le dire et de bien insister sur le fait que c'est si tout cela est compris et s'il y a bien la conscience de ces phénomènes et de ce qui se passe, qu'effectivement, le mentorat va permettre de faire avancer les choses. C'est un peu ce que je voulais dire aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la place des femmes professeurs dans le secondaire. Oui. En France, la majorité des professeurs des mathématiques sont des femmes. Ça ne suffit pas à faire en sorte que les filles aillent ensuite vers les carrières les plus prestigieuses en mathématiques, parce que tout simplement, bah, beaucoup de ces femmes qui sont leurs professeurs dans le secondaire le sont parce qu'elles ont été privées des possibilités de poursuivre des carrières. Et donc, au final, ça ne permet pas de viser, de briguer et d'atteindre ces positions les plus prestigieuses. Donc en fait, il ne suffit pas d'être une femme entourée de femmes pour que ça fonctionne. Il n'y a pas un mécanisme, finalement, la présence de femmes ne suffit pas à faire le féminisme, ne suffit pas à faire la lutte contre les discriminations, ou ne suffit pas à faire la prise de conscience de la dimension sociale et politique des phénomènes. Donc je pense que oui, effectivement, une fois qu'on a la compréhension et une fois qu'on saisit où sont la discrimination, une fois qu'on a compris, comme le disait aussi Claudine Schmuck tout à l'heure, voilà, qu'on n'est pas dans de l'autocensure, qu'on n'est pas dans du manque de confiance en soi,
mais
qu'on est dans tout ce qui en prive les femmes, bah c'est à ce moment-là que ça peut devenir pertinent et fonctionner.
Ramla Abdelatif voulait réagir, forcément en tant que mathématicienne.
Oui. Ce que je trouve intéressant justement dans le témoignage qu'on vient d'entendre et dans ce que Clémence vient de dire, c'est que finalement, si on doit dire le problème majeur à l'heure actuelle des filles et des mathématiques, c'est que la société dans laquelle on vit a une vision des mathématiques. La société dans laquelle on vit a une vision des femmes. Et ces deux visions sont incompatibles. Donc, il faut évoluer de ce point de vue-là, si vous voulez.
Et à l'inverse, on va parler de la biologie, on va parler des médecines du vivant, voilà, du prendre soin, de la médecine. Et là, pour le coup, c'est plus...
Voilà, mais il y a quelque chose déjà que... Enfin, nous, notre communauté en tant que communauté mathématique, mais de manière générale, enfin, la société dans laquelle on évolue, parce que ce n'est pas juste les mathématiciens et les mathématiciennes qui peuvent à eux tout seuls changer ce point de vue. Mais quand on pense à un mathématicien ou à une mathématicienne, les premières images qui viennent en tête, et ça pour l'avoir testé auprès de collégiens, de lycéens et même d'étudiants, c'est quelqu'un de solitaire, complètement détaché des contingences du monde, qui fait ses petites choses dans son coin et qui se fiche de savoir ce qui se passe à côté. Alors que quand on dit c'est quoi le rôle d'une femme, il faut s'occuper des autres, effectivement il faut se marier, avoir des enfants, sinon on n'est pas une femme. Alors qu'en fait les mathématiques, je sais pas, mais c'est un métier dans lequel il faut énormément de créativité, il faut être capable de communiquer. On le disait, c'est une langue, elle a son vocabulaire, elle a sa grammaire, elle a sa conjugaison, c'est vraiment une langue. Il y a des capacités de rédaction, on insiste avec nos étudiants sur rédiger, ils comprennent pas que c'est pas juste des formules jetées au hasard. Ouais. Rédiger, parce qu'il faut se faire comprendre, et c'est du travail d'équipe. Si vous présentez les mathématiques sous cet angle-là, bizarrement, tout de suite, ça ressemble plus à l'image du mathématicien solitaire dans sa tour.
Voilà. C'est un peu aussi votre avis, Claudine Schmuck.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire et ce que disait Clémence aussi à l'instant. Bon, je pense que sur ce que disait Catherine Ngila, sur son témoignage, il y a un autre point qu'elle a évoqué qui est assez frappant, c'est qu'elle disait qu'au Kenya, il y a à peu près 50% de femmes dans les filières scientifiques et techniques. Et puis tout de suite, elle a rectifié en disant oui, mais parce qu'elle, elle est chimiste.
Oui, c'est
donc,
ça.
Voilà. Donc, et la chimie, c'est typiquement un domaine dans lequel on aura plus de femmes. Donc on a toujours des perceptions assez stéréotypées. Mais ça rebondit aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure. Le niveau de confiance équivalent entre les filles et les garçons dans un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique, etc. Donc c'est que globalement, qu'est-ce que ça donne, ce résultat-là? Ça donne le fait qu'après... paradoxalement, on a une beaucoup plus forte proportion de femmes qui va s'orienter vers les études mathématiques, scientifiques et techniques. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'on a en France, par exemple, une filière qui est désertée par les femmes en ce moment en France, qui est le numérique, ils n'ont absolument pas ce problème-là au Moyen-Orient. C'est quasiment à parité. Après, le problème qu'elle a évoqué, c'est exactement celui qui se pose. Oui, beaucoup plus de femmes étudient, mais l'accès au marché du travail est coupé. C'est là que les biais, c'est plus des biais, là, c'est la réalité sociale dure qui est infligée aux femmes. Donc, ça, c'est, ce paysage-là, je pense que c'est important de le garder à l'esprit, parce que de toutes les manières, c'est inégalitaire, soit parce que quand on a un accès égalitaire, après, on n'a pas accès au marché du travail, soit parce qu'il y a des biais autres qui interviennent avant. Et sur l'aspect mentorat, oui, j'ai entendu ce que disait Clémence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'études sociologiques pour faire une démonstration carrée, etc., rigoureuse. Néanmoins, au travers des sondages que nous conduisons régulièrement, on voit qu'il y a un différentiel de façon de s'approprier, d'être à l'aise dans ses études, épanouies, etc., qui résulte du mentorat, qui est très, très important.
Je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté du Sénégal.
8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33-7, 64, 45, 51, 41.
Et nous avons un appel d'Arfan, qui est inspecteur de l'éducation et de la circonscription de Thiès au Sénégal. Bonjour Arfan.
Bonjour, alors, mes voisins et les voisines.
Merci d'être avec nous. Dites-moi, alors chez vous, quelle est la proportion des filles bachelières dans les filières scientifiques?
Au Sénégal, sur les 100 bacheliers que nous avons, les 70 sont dans les autres filières. Il n'y a que 30% qui sont dans les filières scientifiques.
30%, un tiers, hein, en fait. Hein. Mm-hmm. Et je crois savoir que, je ne sais pas si vous nous écoutez depuis quelques temps, vous aussi, vous mettez en place des systèmes de mentorat pour les encourager. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Voilà, nous avons beaucoup travaillé sur la promotion des mathématiques, des sciences. C'est parce que nous avons reçu des instructions à la suite des assises nationales sur l'éducation parmi les 11 décisions présidentielles. Il y en a une qui demande de développer des stratégies pour inverser la tendance, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de scientifiques, beaucoup plus de mathématiciens que de littéraires. Yeah. Et c'est en cela que, ici à Thiès, nous avons fait ce que nous appelons, dans le cadre de la promotion des mathématiques, un concours dénommé Linger Math d'Amel Math, pour sélectionner les meilleurs à l'élémentaire, au CM2, les récompenser, faire du mentorat après, et faire un suivi de cohorte.
D'accord. Avec quels résultats vous avez commencé ces concours ou pas déjà ou...
Oui, on le fait depuis 4 ans, 5 ans. Mais je dois dire que dans la circonscription de Thiès que je dirige, cette année, nous avons orienté 3976 élèves en seconde.
D'accord.
Après la troisième. Sur les 3976, les 1212 sont allés vers les filières scientifiques. C'est toujours les 30%. Mais dans ces 1212, oui, les 780 sont des filles. Ça représente 64,06 sur l'effectif qui est orienté dans les filières scientifiques. Donc les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à ce niveau.
Ouais, voilà. Donc, comme quoi ça peut fonctionner aussi. Merci beaucoup Arfan pour votre témoignage du côté de Thiès. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais forcément la volonté politique aussi. On ne peut pas ne pas en parler. Ramla Abdelatif, là très récemment, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé une nouvelle épreuve du bac en maths et culture scientifique qui serait créée, je crois, en classe de première. Hein, c'est ça. Je vous vois très dubitative à partir de l'année 2025-26. La volonté politique, elle n'est pas là.
Hein. Ah non, elle n'est pas là. Je suis désolée, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Si on parle justement des différentes réformes qui ont eu lieu ces dernières années, il y a des documents très complets qui ont été, des études très complètes qui ont été faites. Il y a notamment une synthèse assez claire qui a été mise en ligne sur le site de la Société mathématique de France, la SMF, qui a été portée par Mélanie Guenet. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Mélanie a fait un travail incroyable là-dessus. Et enfin, les résultats sont sans appel. Toutes ces réformes n'ont fait que diminuer le nombre de filles qui suivent des études mathématiques. Donc, il y a un moment, s'il n'y a pas de vraie volonté politique, c'est-à-dire de dire, bon, ben, on va écouter ce qui se dit sur le terrain et on va essayer de faire en sorte que les choses changent. Parce que quand vous discutez avec, par exemple, les collègues de Femmes et Mathématiques, enfin, des collègues qui sont là depuis 40 ans et qui disent, mais en fait, il y a des choses, ça fait 40 ans qu'on les dit et ça ne change rien.
Oui, c'est un vieux débat. Hein.
Oui, c'est un vieux débat. Donc, il y a des annonces, mais les annonces ne vont jamais dans le sens où elles devraient aller, entre guillemets. Et surtout, il n'y a pas de moyens qui sont réellement mis. Là, on parle de cette réforme, on balance les enseignants en disant « Voilà, l'année prochaine, vous allez devoir faire ça. » Mais quels moyens sont mis en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de gestion des classes? Aucun. Je suis désolée, il n'y en a aucun.
C'est aussi votre avis, Clémence Perronnet?
Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est même pas qu'on a une absence de volonté, c'est qu'on a l'impression que tout est fait pour aller exprès dans le sens inverse. Donc c'est effectivement, enfin, c'est exactement ce que disait Rama Abdelatif. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, les personnes de terrain et le milieu militant pour les femmes en sciences et le milieu scientifique avaient annoncé et avaient prévenu que ça aurait des effets délétères. Et maintenant, on les constate et il y a une forme de surprise. Ah bon, tiens, mince, ça ne marche pas. Et en fait, il y a un constant renouvellement d'un étonnement, mais qui à ce stade est nécessairement faux et fin, puisque voilà, on a quand même aujourd'hui des données, des savoirs qui nous permettent de comprendre dans quelle direction il faudra aller pour résoudre une partie de ces problèmes, et rien ne va dans la bonne direction.
Et résultat des courses, je le disais en début d'émission, selon l'UNESCO, seulement un tiers des scientifiques dans le monde sont des femmes, Claudine Schmick.
Oui, oui, absolument. Donc, après, je pense qu'il y a la volonté politique qui a été évoquée et qui est un point important. Et là, je souscris ce qui vient d'être dit. Et il y a aussi, je pense, une question de méthode. C'est-à-dire que je pense que peut-être qu'avant de s'embarquer dans des actions comme les réformes qui ont des résultats un peu délétères, comme ça vient d'être souligné, pourquoi ne fait-on jamais d'expérimentation avant d'implémenter, pour bien comprendre, ça marche comment, quels sont les résultats, etc. Donc, à chaque fois, on répète les mêmes erreurs, ouais. C'est-à-dire qu'on applique une grande réforme et après on se fustige soi-même parce qu'on n'a pas les bons résultats, on n'a pas les résultats qu'on espérait. Après, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin, et moi, je pense que cette notion de mesure d'impact, il ne faut pas seulement la demander au gouvernement, à l'exiger expérimentation, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Et je pense qu'il est temps aussi pour nous, quand on intervient sur ces sujets, parce qu'on a aussi une action qu'on conduit dans les collèges en France, etc. En ce moment, on a une grande exposition sur les femmes qui est présentée à plus de 600 collèges dans toute la France et qui, globalement, entre 2023 et 2024, va atteindre 300 000 élèves. On fait de la mesure d'impact et c'est très important. Et on voit que parce que la notion de rôle modèle que vous évoquez, c'est tous les rôles modèles ne fonctionnent pas. Donc, tout à l'heure, on avait la discussion sur il y a plus de profs, professeurs femmes en Moyen-Orient, et c'est peut-être ça qui, dans les pays du bassin méditerranéen, et c'est peut-être ça qui fait qu'on a plus de jeunes femmes, de filles qui s'en sortent. Et ensuite, Clémence nous a dit, ben non, finalement, vous avez plus de femmes aussi en France, donc c'est peut-être pas ça l'argument, etc. Non, mais c'est juste pour dire si vous voulez, que la notion de rôle modèle, elle est subtile, et c'est pas parce qu'on dit qu'on fait une action avec le mentorat, etc., et qu'on met des femmes en présence, que ça marche. Il faut de la mesure d'impact et des actions, je termine en vitesse, continues. C'est-à-dire que c'est pas...
Bien compris. Voilà, parce que nous aussi, on a des logiques mathématiques, on a des secondes à respecter sur RFI. Merci beaucoup à toutes les trois pour cet échange passionnant. Merci Ramla Abdelatif, merci beaucoup Claudine Hachemuki, merci Clémence Perronnet. Allez, on se quitte avec Flavour et Big Baller sur RFI.
If you know, you know, but if you don't know, you know. Now you know, if you know, you know, the big ballers in town. It's money,
it's nothing.
Balling,
Alapa.
Premium or nothing.
Them or nothing.
Now you know,
now you know,
now you know,
now you know.
Ebelebegebu, forget what they know.
It's
money,
it's nothing.
Ballin',
Alapa.
Premium or nothing.
Them or nothing.
Now you know,
now you know,
now you know,
now you know.
Ebelebegebu, forget what they know.
Big Baller, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brou, Delphine Cachin, Tom Malky. On se retrouve bien sûr demain à la même heure pour parler de la place des femmes dans l'espace public et notamment dans les villes. Comment rendre les villes plus agréables à vivre, des villes plus mixtes. Si ça vous intéresse, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Demain, à demain, belle journée à l'écoute de RFI.